Céline, merci d'être avec moi aujourd'hui pour ces quelques petites questions sur ta résidence et tes projets à Artex. Donc, je vais commencer dans le fond avec une question plus directement sur le sujet de ta résidence. Donc, à travers les ressources d'Artex, tu construis une biographie visuelle et textuelle d'une artiste fictive. Tu travailles à partir de textes et d'images trouvées dans des articles, des monographies et des entrevues d'artistes. Et je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir constituer ce personnage?
C'est toujours difficile, je trouve, de revenir sur la genèse d'un projet sans la réinventer. De mon souvenir, ça vient de beaucoup d'éléments différents, de situations particulières qui sont arrivées à ce moment-là. Mais si je me souviens bien, j'étais en train de terminer le projet du drap blanc, qui prenait alors la forme d'un livre d'artiste et d'une exposition, puis c'était un projet qui avait été extrêmement exigeant émotivement et aussi en temps. J'avais travaillé, je pense, j'ai mis 6 ou 7 ans à écrire ce livre. C'était un projet personnel parce que c'est l'histoire de mon père et d'une personne qui a mal vécu, puis de la souffrance que sa vie a pu entraîner, bah, pour lui et autour de lui. Donc, je pense que j'avais besoin de me lancer dans un projet qui était détaché de moi, tout en utilisant un peu les mêmes procédés que ce que j'avais fait. Donc, la question de l'enquête, l'idée de la biographie, en étant vraiment à la frontière des arts visuels et de la littérature, le rapport du document avec la fiction, toutes ces choses-là, je voulais les explorer. Puis, c'est comme ça que je pense qu'est venue l'idée d'écrire cette biographie d'une artiste fictive. Ça coïncidait avec une question collective qui perdure, puis qui est encore nécessaire sur la place des femmes dans le milieu de l'art. Vu que moi, mon outil, c'est le langage, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on parle des artistes. Quand les artistes sont des femmes, est-ce qu'on parle d'elles? Est-ce qu'il y a des mots qui sont utilisés plutôt que d'autres? Puis même au niveau de la structure narrative d'une biographie, est-ce qu'il y a une façon de raconter les histoires quand ces histoires-là sont des succès d'un point de vue historique? Est-ce qu'il y aurait une forme de structure narrative de l'échec? Et donc tout ça, ça m'a amené aussi à plein d'autres questionnements. Qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que la réussite? Donc, ouais, voilà, je dirais que c'est le point de départ du projet. Puis qu'il a ensuite beaucoup bifurqué. Puis je suis même plus sûre de raconter la biographie d'une artiste en particulier, mais plutôt d'accumuler des voix collectives autour de ces questions-là.
Qu'est-ce que tu as trouvé dans les dossiers d'Artex qui ont alimenté, dans le fond, ces réflexions-là? Quels sont les noyaux communs aussi que tu as trouvés dans les dossiers?
Je suis arrivée sans. J'avais pas une méthodologie de chercheuse. Ça veut dire que j'ai pas été stratégique dans ma façon d'explorer les dossiers. J'y allais au hasard. D'abord avec des artistes que je connaissais, ensuite vraiment en prenant les dossiers, puis en ouvrant des dossiers d'artistes que je connaissais pas. Il y a aussi à Artex, il y a des thématiques qui sont faites avec des dossiers sur le féminisme ou sur des centres d'artistes. Donc, ça permet aussi de diriger un petit peu la recherche. J'essayais juste d'avoir une disponibilité au projet et à ce que je rencontrais. Assez rapidement, j'ai été plus à l'écoute des entrevues que je trouvais dans les dossiers parce que c'est la voix des artistes qui m'intéressait et la façon dont leur histoire était racontée, mise en scène par elles-mêmes, les questions qu'on leur posait aussi, ça m'intéressait. Et puis, je me suis rendu compte aussi avec le temps que ce qui m'intéressait, c'était aussi ce qu'on ne trouvait pas dans les dossiers. Parce que je ne sais pas si c'est le cas de la majorité des artistes. Moi, quand j'ai constitué mon dossier à Artex, c'est moi qui ai fait la première sélection. J'ai choisi ce que je mettais, ce qui était digne d'être archivé et ce que je voulais pas laisser comme archive, comme trace. Et donc, pour moi, il y a aussi là-dedans une façon d'obéir à des règles tacites, à une loi de l'institution? Qu'est-ce qui est vraiment de l'art? Qu'est-ce qui est digne d'être archivé? On s'y soumet sans vraiment s'en rendre compte. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ça. Comment on construit notre identité d'artiste à travers ces archives? Souvent, on essaye de créer un parcours très cohérent. On élimine des pratiques qui sont un peu en périphérie du travail qui est reconnu par les médias ou par les institutions. On ne parle pas de nos errances, des œuvres qui n'ont pas marché. On censure sûrement les œuvres qu'on considère comme n'ayant pas eu le succès qu'on aurait aimé qu'elles aient. Donc, ouais, j'ai commencé à construire mon projet autour de ces silences-là.
Puis est-ce que tu penses que les artistes femmes ont tendance à se censurer plus que des artistes hommes, par exemple? C'est peut-être dur à dire.
C'est difficile. J'ai un biais féministe qui fait que j'arrive plus à savoir si ce que je ressens est lié à mon paradigme, aux lunettes avec lesquelles je regarde ce projet-là, ou si c'est un fait. Parce que dans les études, on voit de toute façon que les médias, quand ils parlent des projets artistiques, n'en parlent pas de la même façon. Quand ils parlent des projets de femmes ou des projets d'hommes, il y a une étude qui est sortie l'an dernier qui a été faite par l'UNEC, donc l'Union des écrivains du Québec, qui s'est intéressée à des articles sur une période de temps, je ne pourrais plus te dire sur combien de temps, qui sont parus dans la presse. Et donc, ils ont fait un relevé des mots qui étaient utilisés pour parler des œuvres des femmes et des hommes. Et de manière générale, tout ce qui était lié au génie, à l'intelligence, il y avait, je pense, aussi œuvres brillantes, certains thèmes comme ça, étaient vraiment utilisés de manière dominante pour les œuvres masculines. Évidemment, la sensibilité, l'intimité étaient utilisées pour des œuvres féminines. Donc, j'imagine de toute façon que si le discours qui nous entoure est connoté, inévitablement, nous aussi, on est imprégnés de ça et on parle différemment de nos œuvres. Mon expérience aussi de chargée de cours, quand j'enseigne à des jeunes étudiants, je suis toujours frustrée de voir que la manière dont les hommes et les femmes se présentent différemment. Quand je leur demande de faire un exposé oral, la plupart des hommes sont à l'aise. La plupart des femmes commencent leur exposé en s'excusant de manquer de confiance, de ne pas être assez prête, alors que leurs exposés sont aussi bons que ceux des hommes. Donc oui, j'ai quand même l'impression qu'autour de moi, on parle pas avec la même assurance de ce qu'on fait et ça fait qu'on censure certaines choses qu'on a peur de en fait qui ne soient pas validées par des institutions
Puis dans ces documents-là qui sont absents ou ces aspects-là, quelles sont tes stratégies pour essayer de combler ce manque-là?
Alors, je me suis lancée dans une correspondance avec beaucoup d'artistes. J'ai entretenu une correspondance soutenue avec certaines d'entre elles où je les faisais participer à ces questionnements avec des lettres que je leur envoyais, puis des photocopies, textes que je trouvais dans les archives. Et à chaque fois, je joignais une carte pour qu'elles puissent me répondre. Aussi dans cette idée de construire une voix collective et d'entendre les autres femmes parler de ce silence-là. Puis, l'autre chose, c'est que dans cette même idée de correspondance, j'ai écrit à 100 artistes en leur demandant si elles voulaient bien me parler d'une œuvre qu'elles ont renoncé à faire. Et donc, si elles acceptaient, je leur envoyais une carte. Sur la carte, elles pouvaient me décrire cette œuvre-là. Donc, je reçois des cartes, j'en ai reçu une cinquantaine, puis j'aimerais continuer à recevoir. Puis c'est un peu une sorte d'archive d'œuvres fantômes qui parle un peu, ça pourrait presque faire l'objet d'une histoire parallèle à l'histoire visible que les médias racontent. Je ne sais pas, en tout cas, c'est assez fascinant de recevoir ces cartes les unes après les autres.
Et tu parlais de comment ce projet-là est venu après le drap blanc. Dans le drap blanc, tu utilises plusieurs différentes techniques pour comme, construire un peu ta narration ou l'histoire ou aller chercher des souvenirs. Puis là, tu parles d'aller chercher des cartes postales. Dans le fond, tu utilises un peu différentes stratégies encore une fois. Ce qui m'amène à te poser la question qu'on décrit souvent ton travail comme une forme de montage ou du collage. Puis je me demandais si tu peux un peu élaborer sur cette façon-là de travailler.
Oui, en fait, je me rends compte avec le temps que je m'inspire beaucoup de cinéastes comme Godard ou Wiseman qui utilisent le montage comme moment d'écriture de leurs films. Je sais pas si je pense à Wiseman, donc j'aime vraiment beaucoup le travail. Il arrive dans le lieu de tournage et il ne sait pas encore ce qu'il va faire exactement. Il filme sans direction et le film se construit ensuite en salle de montage pendant des mois et des mois et des mois où il reste imprégné des matériaux qu'il a enregistrés. Moi, je travaille exactement de la même façon. J'accumule énormément de matériaux différents, comme tu disais. Ça peut être des textes que j'écris, des images, des photographies, des entrevues, des questionnaires. Des fragments de plein de petites choses. C'est un peu laborieux parce que je ne sais pas exactement ce qui vaut la peine d'être conservé ou pas pendant que je suis dans le processus d'accumulation parce que je ne sais pas vraiment encore ce que je suis en train de faire. Puis c'est à force de frotter les éléments les uns aux autres que l'œuvre se construit. Donc elle se construit un peu aussi dans ma salle de montage à moi. Donc c'est peut-être pour ça que je pense que la question du montage revient souvent dans mon travail parce que dans l'objet fini, dans l'œuvre, la trace de ce montage-là, elle est perceptible. Je pense qu'on voit que même s'il y a une œuvre d'ensemble, elle est construite avec une accumulation de fragments.
Et pour revenir vers le drap blanc, le drap blanc, c'est une œuvre qui a plusieurs expressions, une exposition, si je comprends bien au départ, un livre d'artiste au tirage limité, un second roman publié aux éditions Le Cartanier. Je trouve que c'est un bel exemple d'une œuvre qui existe aussi dans plusieurs milieux. Donc, ta pratique est entre le milieu des arts visuels, le milieu littéraire aussi, à travers le langage. Puis je me demandais si tu veux me parler un petit peu de comment tu négocies ta pratique dans ces deux milieux-là.
Ouais, ça n'a pas été simple ces 10 dernières années. En fait, pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, mon rêve était de devenir écrivaine. C'était ça que je rêvais d'être quand je serais plus grande. Puis ça a clairement pas marché dans ma vingtaine parce que j'essayais trop de faire entrer mon écriture dans des formes canoniques qui existaient. J'essayais d'écrire un roman avec un personnage principal qui rencontre des événements importants qui le font changer. Puis vraiment, j'ai écrit plein de très mauvais débuts de romans. Et étonnamment, quand j'ai commencé à déplacer cette écriture dans le contexte des arts visuels, ça a été plutôt simple et évident. Je pense que j'ai trouvé une place assez facilement, peut-être parce que c'est un espace dans lequel j'ai pu m'autoriser à écrire sans obéir à des formes préexistantes. Après, j'ai quand même eu l'impression que sans arrêt, je devais justifier la place que j'occupais parce que quand j'étais dans le milieu des arts visuels, on considérait comme une littéraire et quand j'étais dans le milieu littéraire, on me considérait comme une artiste. Je pense qu'on on a besoin de classer les gens dans des catégories, là, de les étiqueter. C'est nécessaire. Puis ça n'a pas été simple pour moi. Je t'avoue que ces derniers mois, j'ai eu de la chance d'avoir plus de reconnaissance et je me rends compte qu'avec cette reconnaissance vient une certaine liberté que je n'avais pas à ne pas avoir à étiqueter mon travail dans une discipline en particulier. Okay. J'ai l'impression que ça devient plus évident pour les gens de l'accepter comme une pratique hybride. Peut-être aussi parce que les choses changent, puis qu'il y a énormément d'artistes depuis quelques années et d'écrivains qui sont dans cette traversée des frontières et qu'on a de plus en plus de mal à situer. Ces dernières années, j'ai quand même lu beaucoup d'œuvres littéraires qui intégraient de la photographie. Il y a peut-être une ouverture qui s'opère aussi.
En guise de conclusion, je voulais peut-être savoir sur quoi tu travailles en ce moment. On est présentement dans un contexte de confinement en raison de l'épidémie du coronavirus. Comment est-ce que ça affecte ton travail et sur quoi tu travailles présentement?
Tous les projets sur lesquels je travaillais se sont un peu écroulés de manière temporaire, parce que je travaillais sur une résidence, dans le cadre d'une résidence avec beaucoup de gens qui sont vulnérables en plus, donc on a dû interrompre tout ça. J'avais une exposition qui est prévue à Artext en même, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer. J'ai de toute façon dû interrompre des projets d'envergure. J'ai plus accès à mon atelier. J'ai besoin normalement de travailler avec des fournisseurs, par exemple, ils ne travaillent pas en ce moment. Mm-hmm. Donc, ça m'a amenée à travailler sur des nouveaux projets, des petites choses qui, en fait, je dis petit, je ne devrais pas dire petit, des choses. C'est un exemple même de la façon dont on parle de nos œuvres. Des choses qui ne seront peut-être jamais diffusées et donc qui sont petites parce qu'elles n'existeront pas publiquement. Mais ça fait longtemps que je voulais me remettre au dessin. Et je profite de cette occasion pour dessiner beaucoup, écrire beaucoup, puis laisser la place à l'exploration et à des projets qui n'ont peut-être pas besoin d'un contexte extérieur pour exister.
Intéressant. Merci beaucoup, Céline, d'avoir pris du temps avec moi ce matin. Puis je te souhaite vraiment le meilleur pendant la fin de ce confinement et tous ces petits grands projets.
Merci beaucoup à toi.